bonne parole du Seigneur avec vous. Et nous allons aller dans l'Évangile selon Luc. Voilà, vous avez bien retenu toutes les annonces. De toute façon, on vous les répétera. Mais voilà. On va aller dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1er et au verset 26. Luc, chapitre 1er et le verset 26. Et c'est un texte qui nous parle à l'heure actuelle. Au sixième mois, alors au sixième mois de quoi ? Au sixième mois de la grossesse d'Élisabeth. Élisabeth, c'est la femme de Zacharie et elle va donner naissance à Jean-Baptiste. Eh bien, on est au sixième mois, voilà. Et il nous est dit, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà un texte, j'allais dire, de circonstance, puisque nous sommes dans cette période de fête de Noël qui nous parle de la naissance de Jésus, de celui qui est venu nous sauver, le Seigneur. Et nous allons nous concentrer ce matin sur la naissance du Seigneur et ce que cela implique également pour nos vies, l'expérience que Marie a faite. Eh bien, elle nous parle dans notre marche et dans notre cheminement spirituel. Et nous allons le voir dans un instant. Hier, lorsque nous étions à la place de la Comédie pour parler de Noël, j'étais un petit peu surpris de savoir que les gens à qui on pose des questions sont un petit peu éloignés du sens biblique de Noël. Lorsqu'on pose la question, essayez, peut-être que c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire, des repas de famille. Qu'est-ce que c'est Noël ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Dis-moi Noël, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, une fête de famille ? On offre des cadeaux, souvent ça revient, c'est la vérité, hein, voilà. Hein. Voilà, quand on voit les gens qui sortent des magasins, tous, voilà, avec des sacs, etc. Et certains disent, ouais, mais je crois que quand même il y a quelque chose de religieux. Alors dis-moi, ah oui, c'est la naissance de Jésus. Eh bien, bien sûr, c'est la naissance de Jésus. On célèbre la venue de Jésus, la naissance de Jésus. Et on pose la question, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a mis... On a choisi cette date-là, le 25 décembre. Ah, bah, parce que c'est la fin de l'année ? Non, c'est pas ça. Voilà, il faut faire un peu mariner les gens. Hein. Voilà, mais pourquoi ça ? C'est vrai, je sais pas. Parce que c'est vraiment cette... Non, quand on lit la Bible, on s'aperçoit qu'il y avait des bergers qui étaient dans les monts de Judée. Donc c'était plutôt, il faisait chaud. Parce que même à Jérusalem, l'hémisphère nord, c'est l'hiver. Il fait froid. Alors... Ah non, je ne sais pas. Alors on dit, mais les anciens s'en apercevaient le 25. Mais nous, maintenant, on a compris que c'est le 21. C'est le solstice d'hiver. C'est à partir de ce moment-là où les nuits sont les plus longues. Et à partir du 21, les jours commencent à rallonger. Petit à petit, les jours se rallongent. Et Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et c'est pour cela qu'on a choisi cette date-là, pour marquer la venue de Jésus, parce qu'il est la lumière qui chasse les ténèbres. Et la nuit, qu'est-ce que c'est ? C'est le mal, c'est le péché, c'est les œuvres du diable. Jésus est venu pour nous libérer, alléluia, et pour nous donner une espérance. Alléluia, glorieuse, on sera avec le Seigneur, avec Dieu pour toujours. Amen. Alléluia. Et tandis que je parlais comme ça, une dame qui ne voulait pas l'évangile, j'ai terminé, elle m'a dit, mais donnez-le-moi, ça m'intéresse. Alléluia, amen. Les gens ont soif, n'ont pas de cadeaux, n'ont pas de switch ou de je ne sais pas quoi. Ils ont besoin eh bien, de Jésus, alléluia, de rencontrer le Seigneur. Amen. Et c'est sur ce thème-là que je voudrais vous parler, parce que cette naissance, la naissance du Seigneur, eh bien, elle nous concerne. Et je voudrais qu'au travers de Marie, nous puissions comprendre que le Seigneur également veut faire une œuvre en nous, afin que nous portions du fruit. Bien sûr, Jésus est né. Bien sûr, le Seigneur eh bien, a donné sa vie. Il est mort à la croix. Mais nous aussi, nous avons besoin de porter cette naissance, d'amener des hommes et des femmes à rencontrer le Seigneur. Nous allons parler de la naissance de Jésus. Nous allons parler de la connaissance de Jésus. Nous allons parler de la croissance de Christ en nous, pour qu'il y ait des renaissances autour de nous. Alléluia. Parce que, eh bien, nous voyons qu'il y a là quelque chose de tout à fait frappant. Dieu s'est servi d'une femme humble et petite dans cette ville de Nazareth, une jeune fille, eh bien, pour faire connaître au monde entier le salut qui était eh bien, prévu par le Dieu très haut. Alléluia. Et je crois encore aujourd'hui que Dieu veut se servir d'hommes et de femmes qui sont simples, humbles, mais consacrés entre les mains du Seigneur pour faire connaître que Jésus est le sauveur du monde. Alléluia. Amen. Et je crois que l'ensemble des frères et sœurs que nous sommes ici rassemblés, l'Église de Christ doit porter ce message, qu'il y ait comme une espèce de gestation spirituelle que vous puissiez former en vous Jésus-Christ pour eh bien, le faire connaître dans cette génération qui a besoin de Jésus. Alléluia. Amen. La naissance de Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire. De toute façon, c'est un miracle et on ne peut pas l'expliquer. C'est le Saint-Esprit qui a conçu Christ dans le sein de Marie. Ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais plus. Mais Dieu s'est fait homme, alléluia. Ça dépasse la pensée. En ce moment, et avec la scénette de la semaine dernière, on a réfléchi sur les dimensions de l'univers. Peut-être avez-vous été au courant, il y a un télescope qui a été envoyé, James Webb, qui voit le monde, l'univers, tel qu'il était 300 millions après sa naissance, 300 millions d'années après sa naissance, des choses extraordinaires. Et on s'aperçoit, cet univers qui est à 15 milliards d'années, à un moment, il n'existait pas. Et l'instant d'après, il s'est mis à exister. Dieu est le créateur de tout cela, alléluia. Les limites nous semblent tellement gigantesques, infinies. C'est la création de Dieu. Et cependant, ce Dieu si grand, si puissant, dont la Bible nous dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, il s'est fait homme, alléluia, et il a été conçu dans le sein eh bien, de Marie. Dans le livre du prophète Michée, je ne sais pas si vous aimez lire les petits prophètes, pendant ces temps de vacances, amusez-vous, prenez le temps de lire le prophète Michée. Et au chapitre 5e, il nous est donné cette parole qui nous frappe dans ce qu'elle dit au chapitre 5. Alors attendez, je le retrouve moi aussi. Michée, chapitre 5, et au verset 1er, il nous est dit, « Toi, Bethléem, Ephrata, petite entre toutes les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les issues, ou l'origine, sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. » Regardez ce qu'il nous est dit. Jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est beau ce verset, qu'est-ce que vous en pensez hein ? Le salut pour le monde entier. Dieu, avant les temps éternels, pense à notre salut. Jésus est venu, alléluia. Et les extrémités de la terre sont bénies. Amen. Alléluia. Mais c'est glorieux, amen. Et je voudrais que vraiment nous puissions eh bien, nous interroger sur cette naissance. Tout à l'heure, dans un don spirituel, il nous a été fait mention de Jésus qui est l'agneau de Dieu. Dieu s'est fait homme, l'incarnation. Pourquoi ? Pour pouvoir mourir à la croix. Le salaire du péché, c'est la mort. Pour que je sois délivré de cette mort, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye pour moi, qui paye ma dette. Jésus a accepté de payer ton péché, ton rachat, ta faute, en donnant sa vie pour toi à la croix du calvaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Et cette mort à la croix, eh bien, elle nous sauve. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aucune religion, aucune psychologie, aucune séance chez un psychologue, aucune distraction, que la France gagne tous les mondiales, mais rien ne pourra enlever de ton cœur le poids du péché si ce n'est Jésus. Et il est le seul à pouvoir le faire, à te rendre, à te donner un cœur pur. Alléluia. Sauf Jésus, eh bien, seul Jésus est capable, eh bien, de le faire. Alléluia. Alors, ça a été rappelé ici, Marie s'est trouvée enceinte par l'action du Saint-Esprit. Mais quelle histoire quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Drôle d'histoire, hein? Marie enceinte, eh bien sûr, il ne fallait pas que ce soit Joseph. Eh oui. Il ne fallait pas que ce soit Joseph, parce que si ça avait été Joseph, ça aurait été un homme comme un autre, voyez, avec les caractéristiques d'un homme, c'est-à-dire menteur, pécheur, tout ce que vous voulez, avec toutes les pensées impures qui peuvent se trouver dans le cœur d'un homme. Oui ou non, Paul? L'être humain, hein, l'homme et la femme. Hein, voilà. Hein. Donc il fallait que ce soit l'Esprit, le Saint-Esprit, Dieu, qui façonne lui-même, eh bien, dans le sein de Marie, qui se fasse homme, Dieu fait homme. Mais enfin, quelle histoire quand même, hein ? Quelle histoire, je répète, hein ? Parce qu'il ne fallait pas que ce soit Joseph, donc il ne fallait pas qu'elle soit mariée. Ouais, mais enfin quand même, une jeune fille enceinte, pas mariée, qu'est-ce que vous en pensez ? Dans la culture, et même bon, maintenant dans nos sociétés occidentales, c'est pas grave, ça arrive, etc. À l'époque et en Israël... C'est quand même quelque chose de grave. C'est quelque chose de grave. Tellement grave que malgré tout l'amour que Joseph a pour Marie, il aime Marie, c'est sa fiancée. C'est la femme de sa vie. Il l'aime. C'est une histoire d'amour entre tous les deux. Mais il dit, mais je l'aime, alors je ne vais rien dire, mais je ne veux pas pouvoir porter cette honte sur ma vie, sur ma famille, etc. Donc... Puis, enfin quoi, elle n'est pas sérieuse, Marie. Elle n'est pas sérieuse. Et maintenant, elle va se marier avec moi. Vous voyez un peu les gens. Heureusement qu'un ange lui parle en vision. Allez, cet enfant, il vient de Dieu. C'est le Christ, le Sauveur. Son nom, c'est Jésus. Voilà, etc. Et bien sûr, mais on s'aperçoit, alors que le Seigneur, il est pur, il est sans péché, il est parfait, il est sans défaut, que déjà, avant même qu'il naisse, il y a l'ombre du péché qui est là. Et on voit tout de suite ce que eh bien, Matthieu dit dans le chapitre 1er, il viendra pour sauver son peuple de ses péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous voyons dès avant la naissance de Jésus le scandale de la croix qui est en train d'apparaître. Et je voudrais dire peut-être à quelqu'un au milieu de nous, eh bien, peut-être quelqu'un qui se dit « mais moi je ne suis pas digne ». Eh bien, de louer Dieu comme vous l'avez fait, je ne suis pas digne même de me revendiquer eh bien, de l'amour de Dieu ou du salut eh bien, que Dieu veut nous donner. Mais je voudrais vous rappeler que lorsque l'ange parle à Marie, il lui dit « Marie, c'est une grâce qui t'est faite. Dieu agit non pas dans la vie de Marie parce qu'elle mérite quelque chose. Bien sûr, je suis convaincu que c'est une fille pieuse. Elle aime le Seigneur mais c'est, et elle cherche Dieu. Mais néanmoins, eh bien, c'est une grâce qui lui est faite. Et je voudrais te dire, de la même manière, Dieu veut te faire grâce. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset eh bien, 21, il est écrit « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia ! Il a porté nos péchés, il est mort pour toi. Le châtiment qui nous donne la paix, eh bien, est tombé sur lui. Il s'est chargé de nos péchés. Et dès la naissance, nous voyons le but de la venue de Jésus, c'est de sortir les hommes et les femmes de leur honte, de leur passé, de leur péché, pour les amener à une victoire, à la délivrance. Ce n'est pas une grande fortune qui est capable de sauver les hommes. Ce n'est pas toutes sortes de compétitions sportives qui sont capables de changer le sens de son éternité, mais c'est le sang de Jésus. Alléluia! Et il est venu pour te sauver de tes péchés. Alléluia! Dans mon expérience spirituelle, je voudrais vous dire ceci. Lorsqu'on prie le Seigneur, et dans mon expérience humble en tant que pasteur, j'ai pu voir des manifestations ténébreuses, diaboliques. Mais je voudrais vous dire ceci, au nom de Jésus, il n'y a pas de problème. Satan est vaincu, alléluia. Parfois on se fait une montagne, l'œuvre, tu prêches Christ, ton cœur il est ouvert, mais tu es libéré dans le nom de Jésus, alléluia. Par contre le péché, c'est tordu. Le péché, ça se cache, ça rentre, ça fait partie de la nature humaine, oui ou non? Même lorsque on est sauvé, même lorsqu'on marche avec le Seigneur, l'Écriture nous dit qu'on a une vieille nature qui est là. Merci Seigneur pour la régénération, mais cette vieille nature, elle est là, toujours tordue, oui ou non? Oui ou non? Et l'Écriture nous dit, eh bien, le péché qui nous enveloppe si facilement. Gloire au Seigneur, alléluia, qui m'a délivré de la loi du péché et de la mort par l'action du Saint-Esprit, eh bien, qui me libère, alléluia, et qui me permet de louer Dieu. Alors, sois comme Marie et dis, mais Seigneur, eh bien, je te fais confiance. Eh bien, vous avez remarqué, Marie, ce qu'elle dira, elle dirait une parole. Vous avez dit, mais pasteur, vous devenez quoi, mariophile? Non. Mais enfin, Marie, elle est dans la Bible. Et elle dit des choses comme... Elle dit, qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. Alléluia. Ben, ça, c'est une belle parole. Alléluia. Seigneur, je ne mérite rien, mais c'est ta grâce. Qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. Alléluia. Alors, la naissance du Seigneur passe quand même par une connaissance de l'œuvre de Dieu. Je voudrais lire avec vous dans Galates au chapitre 4 et au verset 19. Alors, vous me suivez, vous êtes là? Voilà, alors là, il va falloir me suivre. Galates chapitre 4 et le verset 19. Voilà ce qu'il est écrit. C'est Paul qui parle. Paul, c'est un homme, on est bien d'accord. Vous êtes d'accord. Voilà, mais regardez quand même ce qu'il dit. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Qu'est-ce qui se passe à Galates ? Les Galates sont tentés pour passer à un évangile légaliste, sortir de la grâce de Dieu et passer et basculer dans un système religieux basé sur les œuvres. Et l'apôtre Paul les ramène, eh bien, avec tout le poids de son ministère d'enseignant, à la saine doctrine de Christ. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ, et pas par les œuvres, mais par la foi. Et il exprime quelque chose. Et il dit, mais c'est mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire que l'apôtre Paul a connaissance, eh bien, du plan de Dieu pour sa vie, mais lui, au travers de la connaissance qu'il a de Christ, eh bien, il doit pouvoir, d'une certaine manière, mettre au monde des âmes qui, eh bien, passent des ténèbres à la lumière. Par sa connaissance de Jésus, par son ministère, par son témoignage, amener des hommes et des femmes à la connaissance de Christ, et ces hommes et ces femmes-là, eh bien, vivront une nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Et nous voyons, même si c'est un homme, mais il dit ceci, mais j'éprouve pour vous encore les douleurs de l'enfantement, parce que j'ai l'impression qu'en fait, Christ s'est pas bien formé dans vos cœurs. La connaissance de Jésus que vous avez, eh bien, n'est pas suffisante, parce qu'il suffit qu'il y ait de faux docteurs, de faux enseignants, et ils vous séduisent, ils vous emmènent loin de la vérité de l'Évangile. Et mes frères et sœurs, nous avons besoin de connaître avec exactitude le message, eh bien, que nous voulons porter. qui est amené à naître de nous, à faire connaître, à sortir de nous, eh bien, le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque je lis la parole de Dieu, je m'aperçois que c'est extraordinaire. Mais Dieu, il nous parle. Il nous enseigne. Il ne nous prend pas pour des robots. Vous savez, des fois, je passe devant des boutiques. Je crois qu'il y a une boutique à Montpellier, dans la rue piétonne, je ne sais plus où c'est. Il y a une boutique qui est remplie dans la devanture de vieux jouets ou des reproductions de jouets en fer blanc. Les vieux jouets, je trouve ça joli, moi. Des robots. Vous voyez ce que je veux pour Noël ? Des robots, des sous-marins, tu vois, le capitaine Nemo, tout ça. Et alors, ils ont tous une espèce de petite clé à molette, là. Crac, crac. Peut-être elle en a eu, la sœur, quand elle était petite. Voilà, ou des fois, il y a des pantins, comme ça. On les remonte, crac, crac, crac. Il y a une espèce de mécanisme, alors, clang, 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 clang. Ça avance comme ça, voilà. C'est rigolo, hein. Enfin, moi, je trouve ça joli, hein, voilà. C'est déco, bon, bref. N'en parlez pas trop à ma femme, parce que... Voilà. Mais bon, tout ça pour dire, Dieu ne nous prend pas pour des robots. Quand il parle, eh bien, quand l'ange Gabriel est envoyé vers Marie pour lui parler, il lui exprime le conseil de Dieu. Il lui parle du plan de Dieu. Il lui parle avec précision. Il ne la prend pas pour un bébé, pour une enfant. Il lui dit, mais tu vas devenir enceinte, tu vas enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il lui explique qu'il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Son règne n'aura point de fin. Elle pose des questions parce qu'elle a raison. Mais comment ça va se faire ? Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ça sera l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir sur toi, etc. Et nous comprenons que Dieu agit comme ça dans nos vies. Et il nous fait connaître sa volonté, son plan. Et le plan de Dieu pour l'Église de Christ, c'est que nous annoncions Christ. À quoi ça sert ma vie, pasteur ? À quoi ça sert ma vie, pasteur, dans mon quartier, dans mon travail ? Mais t'es amené là où tu es, ne te pose pas la question. Ce n'est pas toi qui as choisi, c'est Dieu qui t'a choisi, qui t'a établi afin que tu ailles et que tu portes du fruit là où tu es et que ton fruit demeure. Il t'a appelé à devenir la lumière des nations. Je crois qu'il a dit François tout à l'heure. La lumière, une lumière dans ce monde. Ne te pose pas la question, mais tu es au courant. Et le Seigneur veut t'instruire de ces choses. Et elle, Marie, a répondu positivement en disant, mais Seigneur, ça, je pense que enfin, ça l'a dépassé. Imaginez, il y a un ange qui se tient devant elle. Vous avez déjà vu un ange, vous ? Voilà, un ange qui lui parle, qui lui annonce des choses tellement extraordinaires, mais elle est dépassée. Mais dans son cœur, il y a quelque chose qui brûle pour le Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'en soit fait selon sa parole. Et je voudrais dire ceci, cette connaissance du plan de Dieu pour ta vie, Dieu veut te le faire connaître. Je m'aperçois dans les Écritures que Dieu entame un travail de préparation au sein de son peuple afin que son peuple soit prêt à diffuser le beau message de l'Évangile. Alléluia ! Tu ne peux pas faire connaître Jésus si tu ne le connais pas, s'il n'y a pas la connaissance du plan du salut qui est en Jésus-Christ. Vous savez, lorsqu'on est au stand biblique, on a affaire à tout un peuple musulman. Et nous avons constaté, avec les bien-aimés qui sont là, André, Philomène, Guillaume, on a constaté que le niveau de connaissance des musulmans par rapport au Coran a augmenté. Ils vous citent des versets entiers. Et je me suis dit, Seigneur, est-ce qu'au milieu de ton peuple, nous connaissons la parole de Dieu de la même manière ? Ce n'est pas enregistré ? Je fais ça parce que... Mais... Ouais. Et on peut être écouté. Hein. Voilà. Mais ce que je veux dire... Mais nous, on a la vérité. On a le Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Mais vous en connaissez combien de versets de la Bible ? Vous en connaissez 10, 20, 30, 40 ? 1, 2, 3 ? Peut-être qu'on a besoin de dire, Seigneur, il y a besoin d'un réveil dans mon cœur. De connaître ta parole, alléluia, de connaître la doctrine. Comment est-ce que je peux présenter le Dieu de... Est-ce que vous êtes déjà mis à la place d'un musulman ? qui se dit, mais dire le Fils de Dieu, c'est un blasphème. Est-ce que vous êtes mis à sa place ? Et de lui dire, non, en fait, ce n'est pas un blasphème. Il y a une façon de parler de Jésus pour que ce cœur soit touché. Le Fils de Dieu, ça veut dire non pas que Dieu a eu commerce avec une femme pour que celle-ci tombe enceinte de lui, mais ça veut dire il est de la nature de Dieu, il vient de Dieu, il est Dieu lui-même. Et il se fait homme, et rien n'est impossible à Dieu. Une fois, j'ai piégé des témoins de Jéhovah, je leur dis, Dieu est capable de tout. Bien sûr, il est capable de tout, mais il peut devenir homme. Il peut se faire homme. Ah oui. Il peut se faire... Dieu, c'est Dieu, alléluia. Il peut venir dans un corps d'homme pour nous racheter, alléluia. Et tout cela, nous avons besoin de le comprendre, nous avons besoin de le saisir. Je m'aperçois que l'apôtre Pierre pourra avoir une autorité dans son ministère parce qu'il sait en qui il croit. Dans Actes au chapitre 3 au verset 6, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, » dit-il au paralytique, là, au boiteux de naissance, pardon. Et il dit « Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main, eh bien, il le fit se lever et les chevilles de cet homme redevinrent fermes. Pourquoi ? Il y a une connaissance de Jésus. Il y a une intimité de Jésus. Alléluia dans sa vie. Amen. Et cette connaissance amène une nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Et plaise au Seigneur que nous soyons de ceux et celles qui sont remplis eh bien, de la connaissance eh bien, de Jésus-Christ. Je vous pose simplement une question, mais je me la pose. Est-ce que je te connais, Seigneur ? Comme je devrais te connaître. Est-ce que ma connaissance de toi, mon intimité avec toi, a grandi ? Et Seigneur, je peux savoir qui tu es, le Sauveur. Je peux avoir la conviction que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et pourtant, je peux avoir encore du mal à te connaître. C'est bien d'élever le nom de Jésus. C'est bien, et moi je loue le Seigneur avec mes frères et sœurs. Mais on est appelés à être des disciples, mes frères et sœurs. On est appelé à marcher, à lui obéir. Viens et suis-moi. Ils laissèrent tout et le suivirent. Dans Marc au chapitre 3, verset 13, la Bible nous dit concernant les douze, il appela ceux qu'il voulut et il les prit avec lui pour les avoir avec lui. Il y a une intimité, la vie du disciple, alléluia, qui connaît son maître, qui connaît Jésus, alléluia. Il y avait, allez, je vous parle encore de vieillerie là, comment ça s'appelle là, les tourne-disques d'alors. Il y en avait un avec, vous savez, des gros parleurs. Et ça s'appelait comment la marque ? La voix de son maître. C'était qui ? C'était quoi ? Un phonographe. Et la marque, je ne me souviens plus. La voix de son maître. La voix de son maître. Comment tu dis, Raoul ? Non, Paul ? Alléluia, je me souviens. Voilà, oui. Alors, gloire à Dieu. Et donc, on a besoin d'entendre la voix de mon maître. Me voici, envoie-moi. Seigneur, forme en moi Jésus. Parce que il doit y avoir une gestation. Premier point, une naissance. Deuxième point, une connaissance. Mais pour une croissance intérieure, le Saint-Esprit forme en toi Jésus. Tout à l'heure, Paul dira ceci, eh bien, jusqu'à ce que Jésus eh bien, soit complètement formé en vous. Dans... on n'a pas lu la suite du texte, mais Marie va être transportée d'allégresse par l'œuvre du Saint-Esprit. Vous savez, connaître Jésus, ça nous remplit d'allégresse. Alléluia, amen. Ça vous est jamais arrivé, vous endormez, mais vous vous réveillez avec un cantique. Alléluia, le Seigneur vous a parlé par un chant, alléluia, gloire à Dieu, peut-être qu'il y a des chants, ils vont nous rester là, mais gloire au Seigneur, alléluia, hein. Et on se réveille, tu es mon rédempteur, alléluia, Seigneur, que, voilà, je puisse en rêver même la nuit, alléluia, et te glorifier, alléluia, et elle va dire, mais 1,46, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Moi qui étais indigne, qui n'était pas digne de toi, Seigneur, mais tu as façonné eh bien, ton image en moi. Tu m'as restauré, tu m'as guéri, tu m'as renouvelé. Alléluia. Dans Éphésiens, je voudrais qu'on le lise. On l'a lu il y a quelques semaines en arrière, mais je voudrais qu'on le relise. Dans Éphésiens, au chapitre 3, mes frères et sœurs, ça c'est de la marche chrétienne. C'est du pratique. On dirait du pratico-pratique. Voici ce qui nous est dit. L'apôtre Paul parle de ceci, il dit, et il prie pour que notre Père Céleste vous donne, on pourrait dire nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous vous souvenez, on avait parlé de la vie intérieure. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, c'est-à-dire tous les chrétiens, les enfants de Dieu, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en force sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il nous allait parler là de Christ qui habite en nous, une gestation spirituelle, Christ qui se forme en nous, qui nous transforme. Et peut-être quelqu'un a-t-il besoin de dire, Seigneur, j'accepte que tu me transformes. J'accepte que tu transformes mes pensées. J'accepte que tu transformes mes conceptions, ma façon de voir, l'autorité que j'ai même sur ma vie. Seigneur, j'accepte tout cela. Et il nous est parlé de l'amour de Dieu. Il nous est parlé des dimensions de l'amour. Il y a un texte merveilleux qui nous parle de l'amour. Le plus beau texte qui nous parle de l'amour, il se trouve dans la Bible, dans 1 Corinthiens au chapitre 13. L'amour est patient, etc. Vous le connaissez, hein, Patricia, tu le connais hein, par cœur, hein, dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Remplacez le mot amour, remplacez dans 1 Corinthiens 13 le mot amour par Jésus et vous découvrirez le caractère du Seigneur. C'est par exemple, allez, je le prends pour vous, hein, 1 Corinthiens au chapitre 13, l'amour est patient, verset 4. Il nous est dit, mais je dis, Jésus est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Jésus ne périt jamais. Alléluia. Mais ça me parle du Seigneur. Et Dieu est amour, alléluia. Est-ce que le Seigneur veut formé en toi, c'est l'amour de Christ, alléluia, dans toutes ses dimensions, sa longueur, sa largeur, sa hauteur, sa profondeur. Et mes frères et sœurs, laissez Jésus se former en nous et son amour se former en nous, c'est le langage du disciple, c'est la voix du disciple, mais attendons-nous, même si c'est Noël, eh bien, à supporter parfois quelques souffrances. Parce que lorsque je vois Jésus, il aime des gens que moi, peut-être naturellement, je ne les aime pas. Je me souviens d'une sœur, il y a des années en arrière, il y avait des gens dans son travail qui avaient un certain comportement de vie, et il disait, le Seigneur les aime, mais je ne sais pas comment il fait. Mais alors, avec un état d'esprit comme ça, hein, Seigneur, apprends-moi à aimer les malades. Apprends-moi à aimer la personne qui est dans la dépression. Les dépressifs, c'est des faibles. Un chrétien ne devrait jamais... C'est pas possible qu'un chrétien soit dépressif. On a eu des hommes de Dieu qui ont parlé comme ça. Hein. Tant pis comme de Dieu. Hein. Ils ont eux-mêmes vécu la dépression. Ils ont changé. J'ai connu un frère qui était comme ça. Bah, les dépressifs, c'est des faibles. Ils sont faibles de caractère. Qu'est-ce que c'est ? Jusqu'au jour où lui m'a dit, mais j'ai vécu un mois en enfer. J'étais dans la dépression la plus totale. Le matin, je n'arrivais pas à me réveiller. Il y avait une tristesse. J'ai crié à Dieu de tout mon cœur, Seigneur, sors-moi de là. Dieu l'en a sorti et il a compris que le Seigneur l'avait fait passer par là pour que son amour envers les dépressifs, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah oui, je m'aime, Seigneur. J'aime pas que souffrir. Seigneur, viens à mon secours. Ben, tu n'aimes pas souffrir, mais alors celui aussi qui est à côté de toi. Et sa dépression, elle ne dure pas depuis un mois, ni depuis deux mois, ni depuis trois mois. Mais il attend qu'il y ait quelqu'un qui ait compassion de lui, qui lui dit, le Seigneur va te restaurer, le Seigneur va te relever. Alléluia, amen, gloire au Seigneur. Les opprimés, les gens, je ne veux pas citer toutes sortes de modes de vie, parce que vous savez, hier dans la voiture, on en parlait, hein, Vincent, On trouve toutes sortes de choses, de déviances sexuelles à l'heure actuelle, de gens qui sont complètement paumés. On parlait des jeunes générations où, excusez-moi, je vous parle comme ça, mais je suis désolé, mais la bisexualité, c'est quelque chose de normal. Un coup, je vais avec un homme, un coup, je vais avec une femme, mais ça fait, c'est normal. C'est normal. On se dit, mais Seigneur, mais comment tu peux aimer un monde pareil? C'est pas possible. Vous savez qu'on est en train de retrouver le monde avec la morale romaine, grecque, telle que l'apôtre Paul et les premiers chrétiens l'avaient connue. J'ai eu la joie d'aller visiter cette ville d'Athènes avec le Parthénon, tout ça. C'était le centre culturel de l'idolâtrie en Europe. L'apôtre Paul, le pharisien, là, issu des pharisiens, le radical, le persécuteur, il s'est trouvé là. Il n'a pas eu honte d'aller visiter. Et à l'époque où il y avait des sacrifices pour les idoles, on mettait de l'encens, des parfums. C'était satanique, c'était diabolique, c'était débauché. Mais il s'est trouvé là, transformé par la révélation de Jésus. Mais ces hommes et ces femmes-là, ils ont besoin de sortir de leur péché. Ils ont besoin qu'on leur parle de Jésus, comme pour notre génération. Alléluia! Amen! Et je prie afin que, Seigneur, tu puisses former ton amour dans nos vies, comme tu l'as fait. Je passe rapidement l'exemple de Pierre, vous le lirez dans Acte 10, comment il était amené à aimer des Romains, la puissance occupante. Mais que le Seigneur puisse nous aider. Alléluia! Aimez comme Jésus, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous aimais, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est quand même tout un défi. Qu'est-ce que vous en pensez? Arriver à faire comprendre à quelqu'un, je t'aime, toi, mais le Seigneur n'aime pas ton péché, et parce qu'il t'aime, il veut te séparer, te libérer de ton péché. Alléluia! Il y a vraiment toute l'action et toute la puissance du Saint-Esprit. Mais, écoutez, je ne vais prendre que moi. Si je suis là parce que j'étais dans mes péchés, c'est que le Seigneur a vraiment beaucoup d'amour. Alléluia, il m'a aimé alors que je n'étais pas aimable. Amen. Donc tout cela, ça grandit, et le Seigneur nous fait passer par des épreuves pour que nous puissions être en mesure de pardonner, de faire connaître l'amour de Dieu. Je prends simplement un exemple, et voilà, excusez-moi si je prends un peu de temps là, mais dans l'Écriture, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Joseph, qui a été vendu par ses frères, qui a vécu une injustice terrible, qui s'est retrouvé en prison. Vous le retrouverez dans le livre de la Genèse. Mais Dieu, dans le sein de la prison, dans le sein de toutes ses épreuves, a été avec lui, l'a secouru, a été miséricordieux. Et sa miséricorde, la miséricorde du Seigneur, lui a pris la miséricorde envers ses frères et ses sœurs. Et il est devenu une source de salut pour sa famille. Alléluia. Amen. Voilà. Que ces choses puissent se faire. Et je termine en disant, une naissance, la naissance de Jésus, bien sûr, une connaissance du Seigneur, de son amour, avec une croissance spirituelle dans nos vies, pour une renaissance, pour, dans ce monde, des hommes et des femmes qui découvrent la grâce de Dieu. Vous savez, Noël, c'est quand même heureux, c'est joyeux. Alléluia, c'est une naissance. Je le disais il y a quelque temps en arrière, mais nous qui sommes l'Église de Christ, bien sûr, il y a le matériel, merci, bien sûr, il y a les cadeaux, etc. Mais pour nous, Noël, c'est un autre sens. C'est Jésus qui est venu, alléluia. Mais on a le devoir, on n'a même pas le droit, on a le devoir d'être heureux, de manifester notre joie. Je suis heureux parce que Jésus est venu. Alléluia. Amen. C'est une naissance. Vous qui êtes parents, vous savez qu'un des plus beaux jours de votre vie, ça a été la naissance de vos enfants. Oui ou non, hein? On s'en souvient. Nous, on en a trois. Je me souviens des trois. Voilà. Hein? Le jour, l'heure, comment ça s'est passé, etc. Et c'est merveilleux de voir une naissance. Mais une nouvelle naissance, c'est merveilleux. Alléluia. Je vous rends grâce au Seigneur, on approche de la fin de l'année, mais on a eu beaucoup de services de baptême dans cette année. Ça a été compliqué. Des fois, je me retourne et je dis, mois de janvier, j'avais le Covid, mais j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans. voyez. Mais pendant toute cette année, Dieu a béni, alléluia. Il y a eu des temps difficiles, mais Dieu a appelé. Il y a des gars et des filles qui sont passés par les eaux du baptême. Je dis des gars et des filles parce que c'est beaucoup de jeunes. Gloire au Seigneur, amen. Ils ont choisi Jésus. Elle est là, Joëlla ? Amen. Paulina aussi va arriver. Gloire à Dieu. Elle est là, oui. Hein. Merci Seigneur. Amen. Mehdi aussi. Gloire à Dieu. Voilà. Là, on a des... Qui c'est qui s'est fait baptiser encore qui est... Voilà. Hein, voilà. Un paquet. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Et nous voulons dire Seigneur. Eh bien, nous voulons porter eh bien, cette connaissance du Seigneur pour que d'autres hommes, d'autres femmes eh bien, puissent naître de nouveau, rencontrer Jésus. Ce que j'ai reçu, je te le donne, je veux le partager, afin que toi aussi tu naisses de nouveau, que tu aies une vie nouvelle. L'apôtre Paul pourra parler d'un certain esclave échappé dans l'épître à Philémon qui se nommait Onésime, et il parlera de lui eh bien, en des termes extrêmement affectueux, en parlant de son enfant qu'il a engendré dans les chaînes, qui autrefois était inutile, maintenant qui est utile pour le royaume de Dieu. Dieu a fait une œuvre merveilleuse. Paul parlera des chrétiens comme étant, dans Philippiens chapitre 4, verset 1er, mais vous qui êtes ma joie et ma couronne, alléluia. Mais le but du Saint-Esprit, en façonnant Jésus en nous, c'est de nous donner la joie, et tu l'as dit tout à l'heure, Emmanuel, eh bien, lorsque nous serons dans le ciel de gloire, nous retrouvions eh bien, nos familles, nos enfants, nos grands-parents. Alléluia. Et que tous ensemble, nous soyons pour l'éternité dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Il est venu pour nous sauver, nous sortir de nos ténèbres. À lui soit la gloire. Alléluia. Je termine. Pourquoi vous rigolez ? Guillaume, tu vois, cette église, elle manque de respect envers son pasteur. On va prier et je voudrais qu'on puisse dire au Seigneur, façonne en moi Jésus. Alléluia, façonne en moi Christ. Et peut-être quelqu'un qui est blessé, le cœur brisé, comprend pas le sens de ses souffrances, mais peut-être que le sens de ses souffrances, c'est d'établir en toi l'amour de Dieu, te guérir, afin que par la consolation que le Seigneur t'apporte, tu puisses toi aussi... apporter cette consolation, ce salut, afin que par le pardon, par la victoire sur le péché qu'il t'apporte, tu puisses dire à celui qui est englué, mais Jésus t'aime, et il a la puissance de te purifier, de te laver, et de briser toutes tes chaînes. Alléluia. Alors on va prier ensemble, en disant façonne en moi Jésus, Seigneur, je veux être ton disciple. Seigneur, nous sommes sous ton regard. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette joie, ces cantiques, les dons spirituels, l'action du Saint-Esprit. Et nous voyons, Seigneur, que tout cela, ça a un but. Seigneur, non seulement, Seigneur, le but, c'est que nous puissions te glorifier et faire connaître, Seigneur, au monde le Sauveur, ou plutôt faire connaître qu'il y a un peuple qui aime Jésus. Mais Seigneur, ces moments ont aussi une importance parce que tu veux agir dans nos vies afin que là où nous sommes, dans nos familles, sur notre lieu de travail, auprès de nos amis, nous puissions faire naître Jésus. Seigneur, par une action du Saint-Esprit dans le cœur de nos enfants, dans le cœur peut-être d'un mari, dans le cœur d'une épouse, d'un grand-parent, comme ça a été rappelé tout à l'heure par le témoignage, faire naître Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que ton Saint-Esprit agisse dans nos cœurs. Seigneur, Marie a été entière devant toi. Elle a dit, mais je suis la servante du Seigneur, qu'il m'en soit fait selon ta parole. Alors, Seigneur, je te prie afin que dans cette matinée, il y ait la même consécration devant toi. Seigneur, je veux faire naître Jésus dans ma génération, dans ma famille, te faire connaître, Seigneur. Et là, sous le regard de Jésus, que le Saint-Esprit puisse vous visiter et que vous permettiez à partir de ce moment au Saint-Esprit d'agir quotidiennement. Vous savez qu'une grossesse, ça dure 9 mois. Ça ne dure pas une réunion. que vous puissiez dire, Seigneur, dans les semaines qui vont venir, dans les mois qui vont venir, Seigneur, je veux te laisser agir dans mon cœur. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, l'apôtre Paul parlait des douleurs de l'enfantement. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, tu vois tes enfants qui veulent entrer dans ce plan, te faire connaître, te faire naître dans leur famille. Seigneur, je te demande de les bénir. Seigneur, au-delà, Seigneur, de tout ce qu'ils peuvent penser, peut-être qu'il y a un doute qui se fait dans un cœur, mais moi je suis stérile, je ne sais pas parler, je ne sais pas m'exprimer, je ne sais pas comment faire. Mais Seigneur, mon Dieu, c'est par ton esprit. Seigneur, tu es le Dieu de la vie. Seigneur, Marie, Seigneur, ça a été un miracle dans sa vie. Seigneur, mais ça vient de toi. Nous, notre part, c'est de dire, je suis ta servante, je suis ton serviteur. Que ta volonté se fasse dans ma vie. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen.